à toutes et à tous, curieux du sulfureux, amoureux du cinéma de genre, transgenre. Bienvenue au studio 103 du Centre Le Bourneau, en plein cœur des rencontres des cinémas d'Europe, pour le 11e journal des rencontres. En cette fin d'après-midi, on reprendra bien sûr une petite tranche de monstre, à l'heure du thé, après une émission consacrée ce midi à la Battle Monstre The Revenge, qui se déroulera à 18h30 au navire, à l'heure de l'apéro. Et comme plat chaud, comme plat de résistance, on vous propose à 21h une soirée Hammer, du nom des fameux studios britanniques, en compagnie de Gilles Menegaldo, spécialiste de littérature et de cinéma noir, particulièrement anglophone. Bonjour Gilles.
Bonjour.
Il est donc avec nous pour nous mettre le sang à la bouche. Si on ne va pas se plonger directement à la racine du mal, ou plutôt à la racine de sa représentation au cinéma, qui elle débute dans les années 30 à Hollywood, on va s'intéresser donc à l'un de ses laboratoires les plus excitants, les studios Hammer, qui a le bon goût d'être britannique, ce qui nous arrange bien nous pour les rencontres de cinéma d'Europe. Et donc le studio Hammer qui sévit entre 1955 et la fin des années 70, non pas tout à fait, c'est un peu avant, mais le cœur, on va dire l'essor, la croissance, mais vous êtes là justement pour me contredire, hein. N'hésitez pas.
All wrong.
Qui commet environ 160 films.
180, je crois.
Bon, voilà, merci. 180 qui distillent un climat poisseux, brumeux, d'angoisse et de terreur à la lisière du fantastique, voire quelquefois de la science-fiction, mais qui lorgne aussi quelquefois à sa marge vers l'aventure exotique, et puis qui déterre les grandes figures mythiques de Bram Stoker, donc Dracula de Mary Shelley, avec son Frankenstein de Robert Louis Stevenson, avec Dr. Jekyll et Mr. Hyde, dont nous avons sous le coude une petite version, enfin une grande version d'ailleurs, je l'ai vu, un très bon film dont nous allons parler, et puis qui déterre aussi d'autres figures du loup-garou, des vampires de manière générale, avec cette petite touche inimitable alliant érotisme et violence, dans une esthétique toute gothique, enfin pour une part des films, une quarantaine de films de la Hammer qui se situent plutôt dans ce genre-là. Bah, c'est juste. Nous allons parler de sexe et de sang entre adultes consentants pendant une petite demi-heure. Donc, je parlais de thé, mais on peut bien agrémenter tout ça avec un verre de vin ou de whisky ou une potion qui nous transformera
de
peut-être.
Gin.
Ou de gin. Merci René. René, qui est également avec nous. Bonjour, René.
Bonjour.
Et Nico, je n'ai pas... Nico, encore et toujours fidèle.
Yes, indeed.
René, donc tu es là pour, avant tout ça, donc,
rapidement.
La mise en bouche. Rapidement, on prendra le temps qu'il faut, nous parler de quelques coups de cœur du festival.
Voilà. Alors, il y a des coups de cœur concernant des films qu'on ne pourra plus voir pendant les rencontres, mais qu'on pourra voir en salle dans la programmation tout au long de l'année.
Puisqu'il y a pas mal de premières,
et en particulier,
d'avant-premières.
Mais un qu'on peut encore voir, un film britannique d'ailleurs, How to Have Sex, que j'ai beaucoup aimé. C'est un film qui renvoie à un phénomène courant, très, très connu, les jeunes Anglais, mais Européens en général, mais les Anglais sont un peu des champions en la matière, qui consiste à partir en vacances après le baccalauréat, les A-levels, puisque ça se passe en Angleterre, et qui vont donc en Espagne, en Grèce, et qui passent 15 jours de folie à se saouler, à s'éclater, comme ils disent, avec des nuits de danse qui n'en finissent pas, et beaucoup de fanfaronnades sur les aventures sexuelles qui se promettent. Voilà, donc c'est le fond du film. Et au centre du film, on a ces trois jeunes filles qui vont et qui sont tout à fait dans l'optique que je viens de décrire. Voilà, l'aventure, le côté alcool, le côté rencontre de camaraderie où ça va bien se passer, mais le côté aventure sexuelle, ça va se passer de manière un peu particulière, j'en dis pas plus, pour l'une d'entre elles. Et ce qui fait la force et l'intérêt du film, c'est le contraste justement entre cette espèce de folie, cette espèce d'optimisme, ce bon temps qu'on se promet, et le réveil un peu douloureux pour ces jeunes filles. Voilà. Ce que j'ai aimé, c'est le contraste au niveau formel entre la façon dont les scènes de danse, de boîte de nuit sont filmées avec énormément d'énergie, et au contraire, la discrétion minimaliste avec laquelle la déception d'une des protagonistes est filmée. Tout se déroule sur son visage, la façon dont son visage est filmé. Elle dit rien. Voilà. Et ça, j'ai beaucoup aimé ce contraste dans ce film. C'est un film qui, a priori, on se dit « Oh, qu'est-ce que c'est ce truc ?» Mais en fait, c'est un film qui est sérieux, qui d'ailleurs a eu un prix à Cannes, le prix Un Certain Regard, et qui le mérite, à mon avis. Mmh. Voilà.
Out of Sex, qui était dans la sélection du jury des 15-25, voilà. Qui l'ont vu, qui l'ont beaucoup touché. On a eu l'occasion de parler avec les jeunes, hein, mais ouais. Qui ne se sentaient pas de conseiller ce film.
Ah oui.
Ouais. Parmi d'autres. C'était des thématiques qu'il y avait aussi dans la thématique. Je ne vais pas refaire l'émission, mais il y avait aussi Club Zéro. Ouais. Et c'est des sujets. Club Zéro, c'est plus sur l'emprise, finalement l'emprise sectaire. Et surtout, apparemment, ça donnait un mode d'emploi. Enfin, ça donne un peu un mode d'emploi de comment être anorexique sans que personne ne s'en doute. Et donc, c'est plus sur une thématique de responsabilité. Ne pas... voilà, conseiller ce type de film, même si...
Ouais. Oui, mais bon, enfin, il donne vraiment... Écoute, chacun...
Mais Out of Sex, ça ne veut pas dire qu'ils ne l'ont pas aimé. Et Gilles, vous l'avez vu ?
Oui, je l'ai vu, j'ai beaucoup aimé aussi. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Ouais. C'est un film très délicat, qui traite un sujet difficile de manière très délicate. Justement, en refusant toute image voyeuriste, et ça c'est très fort, et effectivement, ce qu'on ressent du traumatisme qui a eu lieu se voit sur le visage de la jeune fille, mais de manière...
Minimaliste,
absolument.
Ouais. Ils n'en font pas trop. Mais justement, il y a ce contraste qui est formidable. C'est ça qu'on aime au cinéma. D'un côté, il s'éclate, et puis, bon, paf, d'un coup...
Il ne faut pas oublier que c'est un premier long métrage.
En plus. En plus, voilà. Bon, là, on n'a plus le temps de parler d'entre vous de cœur, mais simplement, alors deux mots sur, toujours film britannique, bon, c'est un peu mon fond de commerce. Film The Lost King que vous avez vu, j'ai beaucoup aimé.
Oui, parlons-en, vous venez de le voir.
Oui, je viens de le voir. Oui.
Vous venez de sortir de cette... allez, prenons le temps d'en parler.
Malheureusement, j'ai raté le tout début, mais je trouve que je suis arrivé avec un peu de retard parce que j'avais un autre truc avant. Mais j'ai trouvé que ce film était vraiment... L'actrice est formidable, extraordinaire.
Exceptionnelle.
Et l'idée de fictionnaliser avec une image donc, du roi Richard qui l'accompagne en quelque sorte dans sa quête, ça peut paraître un petit peu... limite, disons. Évidemment, c'est pas réaliste, une sorte de vision spectrale en fait du roi, mais qui l'accompagne, qui au début est muet, qui puis après se met à dialoguer avec elle et qui l'accompagne jusqu'au bout, jusqu'au champ de bataille de Bosworth à la fin du film, là où Richard III a perdu la vie et qu'il a réclamé My Kingdom for a Horse, mon royaume pour un cheval. C'est extrêmement touchant et bon, on voit aussi l'hypocrisie c'est une femme évidemment, en plus une amatrice et qui se heurte à tous les conservatismes
des institutions
et on pourrait dire la masculinité toxique de certaines personnes aussi compris des personnes qui sont bien placées soit dans l'université soit dans la politique locale.
Et ce qui est très intéressant au niveau du fond aussi, c'est le fait que en matière d'histoire, on n'a jamais écrit le dernier mot, puisqu'il s'agit, cette fille se prend de passion pour ce monarque, Richard III, qui a été vilipendé par les Tudors, qui en ont créé l'image de monstre, et elle se prend de passion pour lui, et elle se lance dans une enquête de réhabilitation, qui est filmée comme une enquête policière, en quelque sorte, et qui montre bien, justement, encore une fois, qu'en matière d'histoire, personne n'a jamais le dernier mot et qu'on peut toujours revenir sur ce qui a été dit. Bien sûr. Et justement, ces apparitions de Richard III, ces apparitions, ça va bien avec le personnage qui a ce petit côté, je ne sais pas, naïf en même temps que sérieux et concentré. Personnage très attachant qui joue énormément. L'interprétation, comme vous l'avez dit, est absolument remarquable. Et on s'attache à elle tout de suite et on a envie de la suivre dans sa quête. Enquête. C'est une véritable quête qu'elle mène pour arriver à sa fin. Et apparemment, c'est une histoire qui est vraie.
Oui, bien sûr.
Ouais. Voilà. Ouais,
oui. The Lost King, qui, alors je ne sais pas, donc c'était la dernière séance.
Oui.
Merci. C'était la dernière séance ici pendant les rencontres des cinémas d'Europe. C'est un film qui est sorti il y a quelques mois déjà, donc je ne sais pas s'il va être reprojeté, mais enfin, à l'occasion, vraiment.
C'est bien d'aller le voir.
Les deux invités le conseillent. René, si tu veux, reste avec nous pour parler des studios de la Hammer. Donc Gilles Menegaldo, merci encore d'être ici. Vous serez donc ce soir pour cette soirée, donc soirée monstre, articulée autour de deux films de la Hammer, Dr. Jekyll and Sister Hyde, qui sera projeté à 21h. À la suite de cette projection, vous serez là pour une signature de livre, puisque il y a certains de vos ouvrages qui sont disponibles à la librairie du Centre Le Bourneau. J'ai à côté de moi l'un de vos derniers, si ce n'est le dernier dont vous avez co-dirigé l'ensemble, hein, le studio Hammer, laboratoire de l'horreur moderne.
Avec un point d'interrogation.
Avec laboratoire de l'horreur moderne.
Absolument.
Voilà, vous avez raison de me reprendre. Avec un point d'interrogation qui renouvelle un petit peu les études qui ont été faites au sujet de les multiples études, puisque c'est vraiment un sujet qui fascine, qui passionne, hein, autant les sujets évoqués dans les films de la Hammer que la Hammer elle-même. Alors, moi, j'avais envie d'abord pour entrer. Donc, oui, j'ai parlé de Dr. Jekyll and Sister Hyde. Je referme quand même le deuxième film qui a été choisi. C'est Les cicatrices de Dracula. Donc, le sixième, je pense, si j'ai bien compté, le sixième film autour de Dracula de la Hammer et le cinquième avec Christopher Lee, qui commençait peut-être à en avoir un petit peu ras-le-bol à l'époque. Alors, je vous propose de planter le décor, peut-être. Les studios de la Hammer, donc je vous ai dit tout à l'heure, 1955-1970, vous m'avez repris en disant « Oh, pas tout à fait, alors ». Allons-y.
Oui, bon, les studios sont fondés en 1934. Mmh. Mais effectivement, pendant un certain nombre d'années, ils font des choses diverses, des comédies, des films de divers genres. Mais on ne peut pas dire que ça, comme vous avez dit très justement, le cœur, c'est, 1955, avec des films de science-fiction comme la série qui va devenir enfin une trilogie autour du professeur Quatermass, qui est une sorte déjà de savant fou avant le docteur Frankenstein.
Les monstres de l'espace.
Les monstres de l'espace. C'est plus intéressant. C'est X. Il y a l'idée de la censure. Mais au départ, c'est une série télévisée qui est très très populaire et qui est adaptée donc à plusieurs reprises par le studio Hammer avec Roy Ward Baker.
Qui est le réalisateur des deux films qui seront projetés là ce soir.
Tout à fait. Alors effectivement, juste pour préciser quand même, vous l'avez déjà un peu dit, mais il y a le cœur, ce sont des reprises de figures mythiques d'horreur, donc liées en général à la culture britannique, à la littérature britannique, on les a cités. Et en fait, ça commence bien avant les années 30, hein, c'est dès les débuts du cinéma, qu'il y a des adaptations du Dr. Jekyll et Mr. Hyde, je crois que c'est 1908, de Frankenstein, 1910, avec déjà des effets spéciaux, parce que les enjeux sont aussi à ce niveau-là. Donc comment représenter la transformation de Jekyll et Hyde? Comment représenter la créature de Frankenstein, etc. Donc ça commence très tôt, mais effectivement, le premier âge d'or du film d'horreur, c'est le studio Universal avec Dracula en 1931, suivi de Frankenstein en 1931 également, La Momie avec Boris Karloff et plein d'autres. Hein, donc l'idée de la Hammer, l'idée de génie, c'est de racheter les droits du studio Universal pour réadapter en quelque sorte ces grandes figures à l'aune de la modernité de l'époque, c'est-à-dire des années 60, avec un public différent et avec effectivement technologiquement le fait qu'il s'agit maintenant de couleurs et non plus de noir et blanc. Ouais. Donc c'est important.
Ça change tout. Et il y a d'ailleurs beaucoup de jeux chromatiques autour.
Il y a énormément de jeux chromatiques. Oui. Ouais. Alors les jeux chromatiques fonctionnent à un double niveau. À la fois dans un registre, on pourrait dire réaliste, hein, parce que Terence Fisher, qui est un des grands réalisateurs, il y en a d'autres, hein, enfin qui va faire 5 versions de Frankenstein et plusieurs versions de Dracula aussi, et puis bien d'autres films. Une histoire de Sherlock Holmes, par exemple, Le Chien des Baskerville, qui est aussi un très beau film. Il y aura une approche un peu réaliste par rapport aux films des années 30, justement, un retour aux origines, en quelque sorte, hein, victorienne, avec un travail important sur les décors. Le décorateur Bernard Robinson a fait un certain nombre de films. Jacques Asher, c'est le chef opérateur, c'est pareil, donc il donne cette photographie superbe en Technicolor, avec une insistance effectivement sur les couleurs. Donc ça, c'est pour cette dimension esthétique et réaliste, mais en même temps, il y a une artificialité revendiquée du rouge, qui est le sang, qui représente le sang symboliquement et narrativement, mais qui est en même temps aussi plastiquement du rouge.
Qui est plastiquement du rouge. Alors, on va en parler peut-être tout à l'heure, mais juste sur cette incise dans Dr. Jekyll et Sister Hyde, que donc, j'ai pu voir à l'inverse, contrairement au film Les cicatrices de Dracula, mais dans ce film, effectivement, dès la première scène, il y a ce rouge qui est finalement, moi j'ai pensé presque au rouge de Pollock, à une
un dripping.
Ouais, exactement. C'est vraiment ça. C'est projeté. Très esthétique. Pardon.
Projeté.
C'est voilà. Oui, c'est une projection très très comment très fine, très détaillée, très élégante. Voilà, c'est une incision.
Mais c'est aussi une signature, hein, parce que dans Le Cauchemar de Dracula, qui est dans la première version avec Christopher Lee, Horror of Dracula en 1958, ouais, donc juste après le Frankenstein. En fait, le Frankenstein est d'abord. Hein, donc, et on commence par, on va dire, un plan général sur un château, et puis la caméra descend petit à petit, en même temps que la musique elle-même change de tonalité, ça, en quelque sorte, et on termine sur la tombe de Dracula, donc qui est grise, comme les murailles du château, et à ce moment-là, il y a du sang, enfin, des quelques gouttes de sang rouge qui s'écoulent sur la tombe, c'est vraiment un manifeste esthétique. Mmh. Donc, une chose. Voilà, pour résumer ça.
Qu'on retrouve. Et donc, c'est les deux films qu'on va voir, là, se situent plutôt... pas à la fin, mais on va dire dans une deuxième période, peut-être y en a-t-il eu d'autres, mais on est en 70 pour Les Cicatrices, je crois, et 71 pour Dr. Jekyll and Sister Hyde. On est à un moment quand même où historiquement il y a d'autres choses qui se passent au niveau de l'horreur, de l'épouvante. Rosemary's Baby, c'est en 68, ouais. Polanski, il y a Romero, La Nuit des Morts Vivants, Romero, pareil.
Ouais. 68.
68 aussi. L'Exorciste arrivera un petit peu après, mais Friedkin, ouais, c'est 73 ou
74.
Oui. Voilà, et vous avez choisi de nous montrer ces deux films des années 70. Alors comment...
Bon, disons que déjà, il y a un problème de disponibilité des copies. C'est une question toute bête. Mais disons qu'il y a, il y a deux grandes périodes de la Hammer, on va dire, qui correspondent à deux studios différents. Donc le studio Bray, dans la première période, ça a été analysé par un historien anglais important, Wayne Kinsey. La période Bray, donc c'est des années 50 justement, milieu des années 50 jusqu'au fin des années 60. Et après, studio Elstree, donc qui sont un peu différents et avec des budgets un peu moindres, etc. Et qui continuent l'aventure, mais en essayant de trouver des modes de renouvellement. Et c'est compliqué. Et il y a une concurrence double. Il y a à la fois la concurrence d'autres studios britanniques qui font des films d'horreur, comme Amicus, par exemple, qui a fait quand même quelques très bons films. Et il y a également... effectivement, les nouveaux films d'horreur américains, ceux de Wes Craven, ceux de Tobe Hooper, etc., qui concurrencent sérieusement. Et il y a aussi les films de Hong Kong. Il y a aussi les James Bond qui arrivent. Et donc ça explique aussi pourquoi, à un moment donné, Dracula va s'inscrire dans une modernité dans les 60s en Angleterre, où va devenir l'équivalent d'une sorte de mania immobilier ou de méchant à la James Bond. Parce qu'il faut renouveler au maximum. Il y aura même un Dracula avec les sept vampires d'or, donc pareil pour concurrencer Hong Kong, bah, etc. Donc effectivement, on est dans une phase d'incertitude, de volonté de renouvellement, et en même temps avec des moyens qui restent limités, comme ils l'ont toujours été, mais encore plus peut-être à ce moment-là. Et puis voilà, après il faudrait parler des aspects économiques, des problèmes de diffusion aux États-Unis, etc.
Ouais. Mais c'est vrai que vous disiez, les films de la Hammer, c'est ce qui fait aussi un peu sa patte, hein. C'est dans une économie très resserrée, avec des, avec des petits budgets, les équipes qui sont toujours un peu les mêmes.
Oui, avec un renouvellement quand même au fil des années, évidemment, mais effectivement, on retrouve, par exemple, je crois que c'est James Bernard qui signe la composition musicale de Taste of Dracula, James Bernard qui est un des grands compositeurs de la Hammer et qui... Bon, avec des déserts très très connus, en particulier les trois notes de Dracula, comme ça, donc, qui revient comme un leitmotiv, hein, donc c'est une musique de leitmotiv, une musique orchestrale, etc. J'ai cité déjà le chef décorateur, le chef opérateur, le responsable des effets spéciaux. Il y a vraiment une équipe très soudée, ce qui donne aussi cette esthétique caractéristique de la Hammer qui est reconnaissable. Mmh. Et puis, bon, plus la patte des metteurs en scène, même s'il y a. Il n'y a pas que Fisher, il y a Freddy Francis, il y a John Gilling aussi, il ne faut pas l'oublier, qui a fait, je crois que ça s'appelle, enfin en anglais c'est Plague of Zombies, littéralement La Malédiction des Zombies, qui est un très très beau film, des années 60, au milieu des années 60, le Reptile, enfin différentes choses, une adaptation de Jack l'Éventreur aussi. Donc il y a vraiment énormément de choses. Il ne faut pas oublier, je crois, un aspect important de la production Hammer aussi, je le dis quand même, sont les thrillers horrifiques, les thrillers psychologiques, c'est-à-dire qui sont fondés vraiment sur des questions psychiatriques ou psychanalytiques autour de traumatismes familiaux, etc. Et qui sont en noir et blanc en général, avec une esthétique très différente des films gothiques, justement. Donc la Hammer, c'est aussi ça. Et donc il y a un article de quelqu'un qui s'appelle Jean-François Bayon, qui vient de faire un très beau dictionnaire du cinéma britannique avec N.T. Bean, de Positif, qui a fait un très bel article sur ce sujet-là. Voilà. Je ne vais pas citer tous les auteurs, parce qu'il y en a 23, mais bon, voilà.
Effectivement une multiplicité, une densité. Nous, on va essayer de se resserrer justement sur les deux films que vous allez présenter, si vous voulez bien. On va peut-être d'abord commencer par le Dracula, puis finir avec Dr. Jekyll and Sister Hyde, même si c'est d'abord Dr. Jekyll and Sister Hyde qui sera projeté à 21h. Mais ce Dracula, donc les cicatrices de Dracula, on le disait, c'est la cinquième fois que Christopher Lee endosse le personnage. Est-ce que vous pouvez nous raconter en deux mots ce film, déjà, pour qu'on ait une petite idée?
Oui, alors déjà, ce serait intéressant de relire ce que dit Christopher Lee par rapport à ce film. Donc en fait, on lui fait une sorte de chantage un peu affectif en disant quand même ça serait bien que tu reviennes, etc. On lui promet un contrat un peu meilleur, on lui promet aussi des dialogues, de le faire parler un peu plus, parce que Christopher Lee était absolument catastrophé par le niveau des dialogues, donc il a préféré rester muet.
C'est ça, oui, j'avais entendu ça effectivement, qu'il préférait ne pas parler vu l'indigence des dialogues
qu'on lui donnait. Et là il parle un peu plus. Voilà. Après, on retrouve tous les ingrédients, tous les codes, toutes les conventions du récit du film gothique. Hein. Une figure de prêtre, alors qu'on trouvait déjà dans Prince of Darkness, qui à mon avis est plus intéressant quand même.
De Terence Fisher.
Fisher également.
En 66.
Et juste pour l'anecdote, dire que quand même Christopher Lee s'est fait prier pendant 7 ans avant de reprendre le rôle de Dracula, entre 58 et 65, donc il ne voulait pas, comme on dit, être
enfermé dans un
typecast, hein, c'est-à-dire enfermé dans un rôle, d'autant plus un rôle qui était effectivement muet, mais d'un autre côté, pour des raisons diverses, économiques peut-être aussi, il a accepté de reprendre le rôle, et il l'a repris encore après ce film-là, pour d'autres, y compris des parodies parfois de films, hein. Et même il joue même dans un film avec Bernard Ménet, je crois, un film français.
Mais il faut nous donner le titre, absolument.
Le titre, je l'ai pas, c'est un film, donc vous pourrez trouver facilement, c'est Bernard Ménet qui joue le rôle dans un film de vampire parodique, pas très réussi, mais enfin bon, voilà. Donc Christopher Lee a été très loin dans ton acceptation.
Oui, mais
il a joué avec Jésus Franco aussi, donc une adaptation de, par contre, beaucoup plus fidèle, enfin, fidèle entre guillemets, au roman de Bram Stoker. Il y a une version BBC, par contre, avec Louis Jourdan, qui est très, très intéressante, qui est plus proche, là aussi, de Roman Stoker, parce qu'ils prennent 3 heures. Donc, on arrive à une approche beaucoup plus fidèle, entre guillemets. Hein. J'aime pas trop le terme de fidélité, mais plus conforme, disons, aux péripéties romanesques.
Mmh. Donc dans cette version de Dracula, oui. Donc il y a eu Le Cauchemar de Dracula, le premier en 58, ouais. De Terence Fisher avec donc Christopher Lee, vous l'avez dit, il y a eu Les Maîtresses de Dracula. J'aime à citer les titres, oui, oui. Parce que quand même, pour préparer l'émission, comme j'avais pas les films, je suis allée à la médiathèque, je le précise, la médiathèque d'Aubenas vient d'acquérir un coffret de 13 films de la Hammer. Alors malheureusement, on ne trouve pas les deux films qui seront projetés, mais il y en a des délicieux avec des titres. Alors, c'est un délice pour les oreilles. Hein. Il y a souvent mettez maîtresse, femme, et puis Dracula, Frankenstein. Souvent, ça match, c'est très bien. Donc nous avons Le Cauchemar de Dracula en 58, Les Maîtresses de Dracula. Christopher Lee n'y est pas, hein. Il en a un petit peu marre, il fait une pause. Dracula, Prince des Ténèbres, encore de Terence Fisher. Dracula et les femmes, bien sûr, évidemment. De Freddy Francis, Une Messe pour Dracula, donc Les Cicatrices de Dracula, et puis on a et puis ça continue encore après.
Oui, après Taste the Blood of Dracula, donc littéralement goûter le sang de Dracula. Je crois que c'est une des versions modernes entre guillemets, modernisée. Mais bon, disons qu'il y a une sorte de filiation entre le précédent et celui-ci. Donc les cicatrices de Dracula, c'est évidemment les marques qu'il laisse sur le cou de ses victimes, Scars of Dracula, et ça commence par un corps décomposé sur lequel une chauve-souris, mais c'est pas le meilleur effet spécial du film,
non,
dépose quelques gouttes de sang sur le cadavre qui se recompose instantanément en quelque sorte. Bon, il y a aussi quelque chose qui est repris, qu'on retrouve souvent, les villageois qui sont excédés, terrifiés, mais en même temps excédés aussi par les sévices du vampire. Donc au début, ça commence par une jeune fille qui est vampirisée et qui au début incendie le château, qui est une maquette évidemment. Et voilà, donc et après on a toutes les péripéties, et donc il y a une volonté, alors il y a plusieurs choix, en particulier le choix de rajeunir entre guillemets les protagonistes, ce qui fait que du coup il y a très peu d'acteurs connus en dehors de Christopher Lee, ils sont pas tous très bons d'ailleurs, mais bon, c'est intéressant, il y a plusieurs jeunes couples en quelque sorte, on en a déjà eu des jeunes couples, mais là c'est encore plus marqué disons, et notamment une sorte de séducteur britannique qui, bon voilà, je veux pas dire ce qui lui arrive, donc on rajeunit un peu le casting en quelque sorte, et puis on en rajoute alors dans l'érotisme, mais surtout dans la violence gore, parce que moi j'ai rarement vu des scènes gore comme ça dans des films de Dracula. Voilà, j'en dis pas plus pour ne pas spoiler.
Et donc ce film sera projeté, on va dire, vers 23h ici au Centre Le Gourdon.
Mais c'est un film intéressant, mais bon, qui n'est pas parfaitement réussi, mais qui illustre bien en tout cas cette mythologie draculéenne de la Hammer.
De la Hammer. Là, bon, voilà, effectivement, ce que vous avez dit, ça fait penser plus à la série B, un peu, en tout cas, avec de la dérision. Moi, j'aimerais savoir si, et ça va être la transition peut-être pour l'autre film, parce que j'y réponds, enfin... ma réponse est presque dans la question, en tout cas pour le film qui vient, Dr. Jekyll and Sister Hyde. Est-ce que un spectateur, une spectatrice, sans tout ce background, est-ce qu'il peut trouver un plaisir qui ne soit pas un plaisir purement nostalgique ou un plaisir de second degré ? Est-ce qu'il y a encore une force transgressive dans ces films qui, à l'origine, étaient quand même des films commerciaux, mais avec une prétention un peu transgressive quand même.
Oui, enfin, disons qu'il y a le discours explicite, c'est quand même conformiste en ce sens où nous, le Dracula est éliminé, bon, voilà, toujours, de toute façon, hein, de différentes manières. Il y a là aussi une tentative de renouvellement à chaque fois. Mais en même temps, effectivement, il y a des éléments transgressifs en particulier qui correspondent aussi au relâchement des mœurs, enfin en tout cas des nouvelles mœurs sexuelles dans l'Angleterre, disons des années 60 ou début des années 70, donc il y a quand même cette volonté aussi de plaire, entre guillemets, de séduire un public nouveau. Ça a été un problème, hein. Au début, les films de la Hammer, au niveau critique, la plupart des critiques trouvaient ça absolument horrible, mais épouvantable, répugnant, etc. Il y a beaucoup de choses. La censure avait eu beaucoup La Hammer a eu beaucoup de problèmes avec la censure, ça serait un sujet en soi, hein, à développer, la question de la censure des films.
Et donc, Dr. Jekyll et Sister Hyde,
alors,
qui elle-même, d'ailleurs, j'ai lu, avait une mauvaise critique à l'époque.
Oui, 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 il y a eu des mauvaises critiques à l'époque, et c'est un film qui a été réévalué depuis. Moi, je dirais que, bon, autant Tales of Dracula reste conventionnel, hein, intéressant, mais conventionnel, autant Dr. Jekyll et Sister Hyde est beaucoup plus en prise avec la réalité. Sans doute contemporaine. Bon, je ne vais pas trop spoiler le film, j'en parlerai, j'en dirai quelques mots tout à l'heure. Mais pendant la séance, avant la séance ou après, il y aura un petit débat après la séance aussi, je signale. Disons qu'il y a quand même quelque chose de contemporain, effectivement, dans la manière de traiter le sujet. D'abord, c'est assez original, puisque le titre le dit, hein, ce n'est pas un spoiler. Sister Hyde, donc Hyde est une femme. Hein. Et donc, il y aura une sorte de combat d'ego. Voilà.
Ah,
Hommes et femmes.
Ouais, ouais. Mais on peut, bon, on va pas déflorer quand même, mais cette thématique est vraiment très intéressante. C'est au cœur de ce film sur c'est même au-delà justement de la dualité, parce qu'il y a plus de dualité, il y a une hybridation complète entre Dr. Jekyll et Sister Hyde, enfin la sœur présumée de Dr. Jekyll. C'est d'abord deux acteurs androgynes qui se ressemblent, qui ont été...
Ralph Bates et Martin Beswick.
Magnifique Martin Beswick.
Ouais, magnifique Martin Beswick, oui.
Et qui va, et là effectivement c'est transgressif. Il y a des scènes de confusion. Il y a une scène, on en parlait hors micro juste avant, une scène où donc les Dr. Jekyll vit à côté de voisins.
Oui, alors ça c'est une nouveauté, hein, par rapport, j'ai pas eu le temps de refaire tout l'historique des adaptations de Jekyll, il y en a beaucoup, et c'est un enjeu divers, un enjeu pour les acteurs, mais aussi un enjeu technologique en quelque sorte, comment représenter. Donc là, sur ce plan-là, le film, vous allez voir, est assez sobre. Qu'est-ce que vous disiez, donc c'était le...
donc ils vivent, enfin Dr. Jekyll, voilà, vit à côté de
la nouveauté, ouais. C'est ça, c'est qu'en fait en général dans le roman Stevenson et dans les adaptations, la maison de Jekyll est assez complexe, mais disons qu'en gros il y a un domaine social, puisque le Dr. Jekyll reçoit du monde, etc., et il y a le laboratoire secret, d'accord, mais en fait c'est une maison qui est séparée des autres, on entre par une porte secrète, enfin bon, etc., une backdoor, on appelle une porte de derrière, mais voilà. Alors que là, ça se passe dans un appartement avec des voisins au-dessus. Et ces voisins sont en fait une mère avec ses deux enfants. Et donc, il va se passer des choses entre ces personnages et puis le Dr. Jekyll et Sister Hyde. Voilà, pour en dire plus. Et ça, c'est très nouveau et ça permet plein de choses. Ça permet une interaction, effectivement, une porosité entre les genres masculin et féminin, mais aussi une touche d'humour, de comique, d'ironie. Enfin, voilà, ça permet donc de varier les tons aussi par rapport à des films qui seraient plus traditionnels. Donc il y a une assez grande inventivité aussi au niveau du scénario.
Au niveau du scénario. Et puis esthétiquement, vous l'avez dit, c'est assez... je ne vais pas dire épuré, mais c'est assez sobre.
Oui.
Et il y a un fil rouge de la première image, justement, dont je parlais tout à l'heure, de cette projection de rouge, et qui va...
Elle passe dans n'importe quoi, quand même. Enfin, je ne sais pas s'il faut en parler, mais... C'est la projection sur un objet particulier, mais qui contient aussi des inscriptions particulières. Voilà, j'en dis pas plus.
Vous verrez, ça s'est crypté. Et jusqu'au bout, jusqu'à la dernière scène, pratiquement, qui est magnifique, je trouve, qui rejoint aussi le motif du miroir et du miroir déformant, et qui annule les frontières, parce que finalement c'est bien le cœur, on arrive à la fin de l'émission, mais c'est quand même le cœur du sujet, c'est la frontière de l'identité.
Absolument.
Qui est brouillée. On parle de quoi ? On parle des monstres, de toutes ces formes, et c'est effectivement l'identité est complètement brouillée.
Oui, absolument. Alors il y a bien d'autres choses, il y a beaucoup de références, y compris historique dans le film, donc vous les découvrirez, donc j'en parle pas, mais effectivement je crois que la modernité de ce film, et ce qui peut plaire à un jeune public dans le contexte actuel, justement de renouvellement de ces notions de genre, etc. Bon, il y a eu bien sûr des travaux théoriques hein, très, très connus là-dessus, mais c'est justement cette porosité des genres, hein, ce fait que quelle est finalement l'identité réelle de ces personnages. Et donc on a des exemples. Voilà comment abriter dans un corps d'homme un esprit féminin, etc. Mais ça a déjà été fait par la Hammer. Hein. Donc, il y a une version de Frankenstein où la créature de Frankenstein est en fait une femme, une très belle femme d'ailleurs. En fait, c'est un top modèle, l'actrice, et qui abrite en fait l'âme ou l'esprit de son frère qui a été tué. Donc cette idée d'hybridité à tous les niveaux, d'ailleurs, elle existe déjà bien avant ce film-là, mais elle va être reprise et retravaillée dans le cadre de Jekyll et Hyde, non pas du mythe de Frankenstein.
Mmh. Et si on reste... Non, tu voulais ajouter quelque chose
Non, c'est après, à la fin.
Ah, d'accord. Sur cette question de genre, c'est intéressant parce que, justement, vous disiez, ce sont les femmes victoriennes, enfin, les femmes à l'époque victorienne, donc 1850-1900 pour faire...
Victorien, édouardien.
Voilà. Ouais. Qui lisaient le plus d'ouvrages gothiques.
Voilà. Oui, absolument. Donc
c'est ce que tu voulais
dire. Les romans. Enfin, je précise quand même un petit peu. Bon, il y a bien sûr Mary Shelley qui écrit Frankenstein en 1818, donc dans la période gothique. Mais c'est autre chose. Enfin, il y a un mélange dans le roman de Mary Shelley. Il y a des références gothiques évidemment, mais c'est aussi un récit de voyage, un récit philosophique. Bon, j'en passe, c'est des meilleurs. Et puis pour certains, c'est aussi de l'amorce d'un récit science-fiction, évidemment, de projection dans un futur technologique avancé. Donc voilà, mais c'est beaucoup plus complexe. Mais disons oui, le gros des auteurs gothiques sont, il y a les plus connus restent le moine par exemple de Matthew Lewis, parce qu'il a été redécouvert par Antonin Artaud qui en a fait une version et par les surréalistes. Mm-hmm. Ou encore Melmoth de Charles-Robert Mathurin, qui est aussi un des grands romans gothiques. Donc on a gardé des figures masculines prioritaires, mais en fait il y a plein d'auteurs féminins, femmes, qu'on est en train de redécouvrir depuis une trentaine d'années, ou peut-être un peu plus, et beaucoup de jeunes chercheurs en Italie, en Angleterre, un peu partout, travaillent sur ces auteurs, publient des ouvrages sur ces auteurs. Je vais juste donner un exemple dont on parlait tout à l'heure hors antenne, c'est le sang du vampire de Florence Marryat, qui est publié la même année que Dracula. Donc Dracula, évidemment, c'est 1897. Et donc Dracula, comme on sait, chez Stoker, est un aristocrate venu de l'Est, et bon, voilà, des Carpates. Et donc là, il s'agit d'une femme vampire, mais d'un vampire un peu particulier, c'est d'une vampire psychique. C'est-à-dire quelqu'un qui, quand elle aborde, quand elle s'approche d'un individu, littéralement pompe son énergie vitale, pas nécessairement son sang, mais son énergie vitale, et le fait dépérir et mourir. Et donc c'est un roman quand même de 350 pages, et tout à fait intéressant. Et il y a comme ça une pléiade d'autrices femmes pour un public effectivement beaucoup féminin, dans une société victorienne corsetée, à tous les sens du terme, donc corsetage du vêtement. Les femmes parfois risquaient de d'étouffer parce tellement leur corps était serré, était compressé par voilà, et moralement aussi, hein, donc d'où nécessité d'échappatoire dans la fiction, dans la littérature, voilà.
Justement, est-ce que vous croyez pas que le succès de ces films est dû à la rencontre entre une tradition littéraire britannique avec des auteurs comme Robert Louis Stevenson, avec en amont Anne Radcliffe et les romans gothiques, et des acteurs qui étaient nés pour ça, comme Christopher Lee et d'autres. Mmh. C'est quand même ça, à la base.
Mais nés pour ça.
L'alchimie, tu veux dire.
Ah oui, ils étaient faits pour ça.
Ah bah oui. Ah bah oui.
Ils étaient faits pour faire ce genre de film.
Bah, ils étaient faits pour faire ce genre de film, sauf que Christopher Lee a commencé sa carrière bien avant et qu'il a tourné avec John Huston et avec plein d'autres. Donc il a une carrière assez versatile, comme on va dire. Mais effectivement, il a donné une incarnation de Dracula assez différente de celle de Bela Lugosi. Mais il faut savoir quand même que Christopher Lee, d'origine italienne, qui parle, c'est Carandini en fait, hein, son nom de famille, Et qui parle parfaitement plusieurs langues. Il est polyglotte, il parle l'allemand, il parle l'italien, il parle l'anglais, il parle le français parfaitement. Donc voilà, et il n'a pas ce côté effectivement slave, etc. Donc il parle un anglais parfait. Donc justement, le choix de Terence Fisher, c'est montré sa modernité aussi, entre guillemets, par le fait qu'il maîtrise parfaitement la langue anglaise. Voilà. Et... Bon, je pense qu'on arrive à la fin.
Oui. Quel a été le succès commercial de ces films? Ça a été considérable à l'étranger, en Angleterre?
Ces films étaient diffusés aux États-Unis aussi. Donc oui, il y a eu un gros succès commercial, en particulier dans les premières années. Et ça a commencé à péricliter un petit peu au moment des années 70, d'où la nécessité d'un renouvellement, parce qu'il y avait beaucoup de concurrence en Italie, aux États-Unis, enfin un peu partout, et que les gens commençaient à se détourner un peu de la mort en disant que c'était un petit peu répétitif, d'où l'invention de Sister Hyde, par exemple. Voilà.
Mais il me semble qu'en France, ça a mis beaucoup de temps avant de...
En France, je pense qu'il y a eu ce qui a fait connaître tous ces films sont les gens, alors dans plusieurs revues, il y a la revue Bizarre d'abord, hein, mais surtout la revue Midi Minuit Fantastique. J'en profite pour dire qu'elle a été rééditée de manière magnifique par les éditions Rouge Profond et par sous la direction de Nicolas Stanzik en 4 volumes de 600 pages, grand format, avec de superbes illustrations que je vous recommande vivement avant que ça soit épuisé. Voilà.
Merci beaucoup. Eh bien, on va s'arrêter là et on ne saurait nous que recommander de venir à cette soirée monstre. Donc après la Battle Monstre, donc c'est à 18h30 au navire. Vous revenez ici au Centre Le Bourneau à partir de 21h, donc Dr. Jekyll and Sister Hyde. Signature de vos livres, discussion avec vous, Gilles Menegaldo. Puis
à la librairie.
Oui, du Centre Le Bourneau, et les cicatrices de Dracula. Et évidemment, vous êtes là pour en parler, pour continuer la discussion. Merci beaucoup d'être venu.
Merci beaucoup à vous.
Merci Nico, merci Sylvain. Ciao, à demain.